Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais.
No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado o recado na porta. Encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa.
Mas você nous nous retrouvons avec le samba do Ernesto, en hommage au fondateur de cette émission, que vive à la musique, aujourd'hui, comme à peu près chaque mois. Nous sommes dans la promenade brésilienne de cette émission consacrée aux musiques latines et caraïbes. Ou passer au brasileño, ou pour les lusophones, ou passer au brasileiro. Et aujourd'hui, nous allons vous faire écouter une musique revenue de l'oubli, revenue de, devrais-je dire, de la disparition, puisqu'il s'agira d'entendre des œuvres du pianiste Tenorio Junior, que le monde entier est en train de redécouvrir grâce à un merveilleux documentaire d'animation, qui est en même temps un film d'enquête, de suspense, qui s'intitule en anglais They Shot the Piano Player, en, image, en hommage à la version anglaise d'un film de Truffaut. Ils ont tiré sur le pianiste, et là ils ont tiré sur le pianiste, puisque ça fait allusion à la mort tragique de Tenorio, dont on reparlera. Mais en tout cas, le départ de l'enquête, qui est l'objet de ce film, et la perplexité celui qui est représenté comme un journaliste dans le film, mais qui n'est autre que la perplexité du cinéaste lui-même, Javier Trueba, passionné de musique, qui avait déjà fait le film d'animation Chico y Rita sur les aventures des musiques caribéennes et du bebop au long de l'histoire tourmentée des rapports entre La Havane et New York, Cuba et les États-Unis. Et il est passionné aussi de la musique brésilienne des années 60 et il est perplexe devant une pochette de disque où on voit le nom de pianiste Tenorio Junior. Il dit, mais comment ça se fait que j'ai jamais vu ce nom-là nulle part? Et ça va le faire partir vers plusieurs années d'enquête. Et il s'est demandé comment raconter son enquête pour pas faire un documentaire avec des interviews à la suite. Et en fait, avec son complice cinéaste d'animation, Javier Mariscal, ils ont mis en image cette histoire à la fois exaltante, on va le voir, et douloureuse. En tout cas, c'est une histoire dont la plupart des protagonistes sont des artistes, dans une espèce de bulle temporelle qui se produit à Rio de Janeiro, et plus exactement dans les quartiers sud de Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, après la première génération de la bossa nova, genre dont on date la naissance en général en 58, apparaissent des jeunes musiciens, très jeunes, on va le voir, férus de jazz, dans un moment où il y a plusieurs boîtes de nuit musicales dans le quartier. et où, un des rares moments, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du Brésil, où il y a un public restreint mais fervent pour de la musique purement instrumentale. Et ils vont aussi accompagner des grands chanteurs et des chanteuses, quelquefois pour des raisons alimentaires et d'autres, ce sont des vrais projets artistiques. Et j'ai cherché tout ce qu'on peut trouver à partir d'Internet actuellement. Je suis à peu près certain qu'un jour ou l'autre émergeront d'autres enregistrements qui n'ont pas forcément fait l'objet de disques. Mais en tout cas, voici... pour moi, dans les disques que je connais, la première fois où on entend le nom de Tenório, c'est dans un album de Leni Andrade, la chanteuse, à Arte Maior de Leni Andrade, enregistré en public. C'est difficile de l'imaginer quand on entend la technique et la puissance de la voix de la chanteuse, mais c'est en 1963, elle a 20 ans, lui, le pianiste, en a 22. Et elle les présente, vous écoutez bien au début, après la présentation du patron de la boîte. Elle dit « J'ai l'honneur d'être accompagnée par Tenório Júnior au piano, Zezinho à la contrebasse et le célèbre Milton Banane à la batterie. » Lui, il est un peu plus âgé qu'eux, il a 28 ans, c'est déjà un vieux pour eux. Et il avait fait partie de la première génération de la Bossa Nova puisqu'il était... à la batterie dans l'enregistrement de l'album fondateur de la Bossa Nova en 1958, Chega de Saudade. Donc on voit ces gens entre 20 et 28 ans qui font la musique qu'on entend ici et on entend au début Leni Andrade qui présente ses musiciens.
Meia-noite, Copacabana, Manhattan Club. E a Arte Maior de Leni Andrade.
Boa noite. Eu tenho a honra de ser acompanhada por Tenório Júnior no piano, Zezinho no contrabaixo e o muito famoso Milton Banana na bateria. Samba do avião.
Meu
que nous venons d'atterrir à Rio de Janeiro avec la voix grave et un peu fêlée de la toute jeune Leni Andrade. C'était Samba do Avião, cette chanson qui raconte l'émotion qui saisit le voyageur qui revient à Rio de Janeiro et qui, par le hublot de l'avion, voit se dessiner la ville et s'approcher l'aéroport, qui a souvent été choisi, évidemment, vu le thème de la chanson, comme chanson de début de certains spectacles. Beaucoup plus tard, 30 ans après ça, j'ai vu des spectacles bossa nova, comme par hasard, avec Leila Pinheiro, comme par hasard, commencé par cette chanson. On atterrit à Rio. Alors, cet album, je vous le recommande, il n'y a rien à jeter. C'est déjà du très très haut niveau, alors qu'on a des gens pratiquement tous quasi débutants. Et comme cette fois-ci, c'est le pianiste qui est la vedette de notre émission, je choisis de, toujours dans le même album, de montrer de vous faire entendre les deux moments où Leni Andrade s'efface et laisse toute la place à ce trio de musiciens merveilleux qui l'accompagnent. Bon, c'était une formule qui s'impose pour quelques années dans ce microcosme donc des quartiers sud du Rio de Janeiro, les trios piano, basse, batterie, où ces gens qui sont nourris de jazz et de la musique de leur pays sont en train d'inventer quelque chose qui n'est plus tout à fait la bossa nova, alors les critiques s'écharpent là-dessus. Est-ce qu'il faut l'appeler samba jazz, jazz brésilien? D'autres appellent ça hard bossa. En tout cas, quand ils jouent ces morceaux, ils les jouent en général sur un rythme plus accéléré. On sent plus l'influence du jazz et évidemment se donnent libre cours, mais d'une manière assez maîtrisée, des séquences d'improvisation. Alors, ce que je ne sais pas, parce que je n'y étais pas et je n'ai pas entendu de document dessus, c'est si, quand ils jouaient vraiment dans les boîtes, ils se laissaient aller à de très longues improvisations, ou si, et ici, donc, ce qu'on a sur les disques, c'est seulement le format qui était celui de l'époque, où on faisait toujours des morceaux très courts. En tout cas, moi, j'aime bien les petits bouts d'improvisation. Il faut choisir, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est très court et très dense. Donc, ici, Tenorio au piano joue avec ses comparses une de ses compositions qui était une de ses compositions fétiches, puisque lui-même, quand il enregistrera un album à son nom, il la reprendra. Embalo, ou la berceuse. Donc c'était ce trio formé de Tenorio Junior au piano, qui joue sa propre composition, Milton Banan à la batterie et Zezinho à la contrebasse. Je ne sais pas si vous avez entendu, à la fin de sa première impro, on entend quelqu'un qui crie dans la foule « Ay, Tenorio !» Et bon, c'était le moment où il était un peu enflammé. Et on continue à garder l'ambiance de cette soirée dans cet album à Arte Maior de Leni Andrade, quand la jeune chanteuse reprend une autre chanson célèbre de Antonio Carlos Jobim. On va entendre au milieu de nouveau un très beau solo de Tenorio. Et à la fin, j'ai particulièrement goûté les petites variations qu'il fait. Et dans le final, l'espèce de dialogue du pianiste et de la chanteuse qui commençait à exercer un art qu'elle développera dans les années suivantes, qui est l'improvisation en scat, sans parole. Elle est encore très, très influencée par ces modèles venus des États-Unis à cette époque-là. Et elle créera de plus en plus dans les années suivantes un scat à la brésilienne. Vive o sonhando, donc de Leni Andrade. Voilà, c'était Leni Andrade dialoguant avec le piano de Tenorio dans cette chanson où elle évoque la rêverie d'une amoureuse qui attend celui qu'elle aime et se demande sans avoir la réponse s'il l'aime vraiment. Et on a l'impression que cette toute jeune femme de 20 ans a vécu déjà 1000 vies quand on entend la nostalgie et la douleur qu'il peut y avoir dans sa voix, tout en gardant cette énergie du rythme. Donc ça, c'était pardon, dans cet enregistrement de 1963, où Tenorio est déjà solidement installé dans les boîtes des quartiers sud de Rio. Ici, donc, c'était dans la Manhattan Club. Et il s'est créé une espèce de microcosme à ce moment-là, je le disais, où de jeunes et brillants musiciens sont embauchés dans ces petites boîtes. Du coup, ils jouent pratiquement tous les soirs. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et ils vont monter des projets soit en commun, soit sous la direction de l'un, soit sous la direction de l'autre, et régulièrement se retrouver. Et un de ces projets va être celui de la formation d'un groupe très provisoire. On a un enregistrement du groupe, Os Cobras. D'ailleurs, ils ne se sont pas donné la peine de donner un titre à leur album. L'album s'intitule ULIP, le LP. Donc, c'était un disque vinyle long. Et une réunion extraordinaire, puisque c'est le sujet, il y a forcément Tenorio Junior au piano, il y avait Paolo Mora au saxo alto, il y avait Meireles, qu'on retrouve dans des dizaines d'enregistrements de l'époque, au saxo ténor. On va retrouver d'autres de la même veine, de nouveau Milton Banana. On va retrouver celui qui a fait en partie l'objet de ma précédente émission, Raoul Zinho, le surnom de Raoul Barbosa, au trombone. Et donc cet album est celui qui, dans le film sur Tenorio, sert de point de départ à l'enquête du journaliste, puisque quand il regarde cet album, au moment où il est en train de commencer à préparer un livre sur la bossa nova, il connaît tous les noms de tous les gens qui sont crédités parmi les musiciens, sauf un, celui de Tenorio. Et c'est comme ça que, petit à petit, il va reconstituer ce qu'on peut reconstituer de son existence. Donc voici le morceau qui ouvre l'album avec toute l'énergie de ces jeunes musiciens.
Thank you.
Donc c'était notre bande de jeunes musiciens. Bon, les deux plus anciens dedans sont Paolo Mora au saxophone alto et Milton Banana à la batterie. Autrement, on a Merel, qui est le compositeur de ce morceau, Quintessence. On a Housing au trombone et au piano Tenorio, dont on entend un joli solo à la fin. Alors là, on est en plein. Ils sont dans l'énergie venue des États-Unis du hard bop, mais ça alterne dans leur album des choses plus brésiliennes, bien que traitées de manière très jazzy, et des choses qui viennent des États-Unis. Et ben, pour continuer, on va entendre Adrian, une composition de Roberto Menescal et Lula Freire, qui est un peu acrobatique à jouer parce que c'est sur un rythme en 5-8. Et des moments, quand on l'écoute distraitement, on se dit c'est une valse. Essayez pas de danser la valse dessus, vous casserez la figure. Et puis, à un moment, il y a une rupture au piano. On entend quelque chose de plus jazz bossa. On revient. C'est un arrangement très sophistiqué pour un morceau très court. Donc, Adrian par Os Cobras en 1964. Je le disais tout à l'heure, cette petite bande jouait ensemble, se croisait et se recroisait dans les quelques clubs dédiés à la musique jazz brésilien, samba jazz ou hard bossa dans les quartiers sud de Rio. Et ils ont formé plusieurs fois des groupes. Alors quelquefois, c'était nommé, par exemple, j'ai vu mentionner qu'il y a eu un... dans la boîte Manhattan, qui a eu un quintet de ténorio, mais bon, je n'ai pas trouvé de traces enregistrées, mais peut-être qu'en fouillant encore, on finira par en retrouver. Mais D'autres fois, ils se retrouvaient et chacun son tour, quand il le pouvait, était leader d'un projet où ils réunissaient une partie de la bande. Et c'est le cas dans les trois morceaux qu'on va entendre ensuite avec le batteur Edison Machado. Alors lui, comme l'autre batteur Milton Banane, il était un peu plus vieux que le reste de la bande puisqu'il a 30 ans à ce moment-là en 1964. Edison Machado, c'est un batteur totalement autodidacte. Il a appris la batterie sans jamais apprendre une seule leçon de musique et s'est imposé dès la fin des années 50 comme quelqu'un qui justement faisait entrer des éléments de samba dans le jazz ou des éléments de jazz dans la samba et qui a été un des batteurs qui ont beaucoup travaillé dans ce petit monde dans ces années-là. Donc il enregistre en 1964, donc la même année que ce qu'on vient d'entendre, avec une bonne partie de la même bande, un album intitulé Edison Machado et Samba Novo. Donc Edison Machado, c'est le nouveau samba, ce qui est paradoxal parce que son album sonne surtout très jazz, avec un accent brésilien mais très jazz. Et donc je disais, on retrouve une bonne partie des mêmes, puisque au piano, donc il y a Tenorio, c'est pour ça qu'on l'entend aujourd'hui, au saxophone de nouveau Meirel et c'est Paulo Moura. Au trombone, il y a encore Raul Zinho, mais il y a aussi Maciel. Et le trompettiste change, cette fois-ci, c'est Pedro Paulo. Mais donc, plus de la moitié du groupe est le même que le précédent. Mais cette fois-ci, c'est le projet de Edison Machado. Comme par hasard, on entendra beaucoup la batterie dans les morceaux. Et en particulier, on dit que c'est lui qui a inventé la manière de remettre des rythmes de samba sur les cymbales quand il jouait du jazz. Alors je vous laisse apprécier. Donc d'abord une composition de Meirel, encore Mirage.
Thank you.
C'était Mirage par Edison Machado et son groupe. On entendait le moment où apparaît le petit solo de piano qui change complètement l'atmosphère du morceau avant qu'on y revienne. Alors je profite de l'occasion pour faire une remarque. On a dit ce qui est largement vrai, mais pas à 100%, que la bossa nova et le jazz brésilien étaient des musiques qui venaient surtout des classes moyennes blanches. C'est vrai, mais pas à 100%. On a l'exemple avec ce disque, puisque deux des protagonistes du disque sont bon, Edison Machado lui-même, le leader, et qui a été batteur dans plein de groupes de bossa nova, et était noir. Et c'est le cas aussi pour Paulo Moura au saxophone. Donc, beaucoup de choses qui sont dites, qui sont partiellement vraies, mais le manque de nuances finit par faire que ce n'est pas vraiment vrai. Il y avait aussi des rencontres entre les diverses classes sociales, les diverses couleurs de peau et les diverses ambiances musicales dans ces clubs. On va entendre maintenant une autre composition de Meireles, solo. C'est le piano qui crée le climat au départ. Et je ferme, vous avez peut-être remarqué dans le précédent morceau que là où on sent que c'est le leader du groupe est un batteur, c'est que pour les enregistrements des groupes de Edison Machado comme ceux de Milton Banane à l'époque, c'était inhabituel à l'époque, mais on mettait très en avant le son de la batterie, alors que souvent dans la musique brésilienne d'époque, il est beaucoup plus discret. Là, c'était un peu les batteurs qui disaient « Oh, c'est nous les leaders, on veut qu'on nous entende sur le disque comme on nous entend quand on est dans le club. » Solo de Meireles. On entendait donc, comme je vous le disais, sinon c'est que vous avez mal réglé votre radio, le jeu de cymbales très en avant dans l'enregistrement de Edson Machado et la manière dont le piano arrive à faire sa place au milieu d'une musique dominée par des cuivres. Et on va l'entendre encore d'une autre manière dans la pièce suivante, Menino Travesso, d'une composition de Moacir Santos et Vinicius de Moraes. Ah, j'ai oublié de dire que l'ensemble du disque est fait avec des arrangements de Moacir Santos, qu'on a plusieurs fois entendu déjà dans cette émission. Et ici, c'est plus un autre aspect de ce que j'aime entendre dans le jeu de ténor qu'on entend. Il n'a pas une énorme présence, pas spectaculaire, mais il fait un tas de petites broderies au piano en réponse en quelque sorte à ce que jouent les autres qui valent le coup qu'on tende un peu l'oreille. Menino Travesso. Grand fracas de cymbales, les cymbales fameuses de Edison Machado. Donc avec ici, c'était un autre projet. Alors, on disait, quand on entendait tout à l'heure avec Lenny Andrade, c'était enregistré en 1963. Le deuxième album dont on a entendu plusieurs extraits du groupe Ushkobla, c'est de 64, ce qu'on vient entendre. Avec le groupe de Edison Machado, c'est encore de 64. Et en 64 encore, Tenorio enregistre le seul album qui est sous son nom, un de ces albums qui avait eu une courte carrière et qui n'ont jamais été réédités pendant des décennies. Et ça ressurgit une fois c'est au Japon, une autre fois c'est en Grande-Bretagne. Il y a des rééditions Et on peut espérer que ça soit plus facile à trouver aujourd'hui que de commander sur Internet, venant d'un pays lointain, ces albums. Donc, entre février et mars 1964, il enregistre l'album sous son nom, Tenorio Junior, avec comme titre de l'album, le titre de son morceau fétiche, Embalo. Et on retrouve encore en bonne partie la même bande, puisque on va avoir pour Embalo de nouveau Paolo Mora, Milton Banana et des gens comme ça. Et pour commencer, on va entendre une je suppose que s'il l'a fait enregistrer en si peu de temps dans deux albums, ce qui tenait particulièrement à ce morceau dont il a choisi le titre pour son album, Embalo, donc ici, dans son propre album, où il se donne la place pour un grand solo de piano, mais il a laissé l'arrangement à l'écriture de l'arrangement à Paolo Moro, Embalo donc. Tenorio et son groupe dans sa propre composition Embalo, à laquelle il tenait particulièrement, donc dans un arrangement de Paolo Moro. Cependant, tout ce qu'il y a dans cet album donc du début 1964 n'est pas entièrement dédié à ses compositions, même s'il y en a plusieurs. Il reprend aussi ce qui était déjà en train de devenir un classique de Antonio Carlos Jobim et Aloysio de Oliveira, Inutil Paisaje. Et avec une façon plus sobre et mélodieuse, plus loin de cette énergie un peu hard bop qu'on avait, donc Inutil Paisaje, toujours dans ce même album de Tenorio Junior. Eh bien non, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant qu'on vient d'entendre un bal où j'ai un peu cafouillé dans mes notes et dans les fichiers. Donc c'est maintenant qu'on va entendre ce que j'avais annoncé tout à l'heure. On va y aller. Et harmonieux morceau, c'était Nebulosa de Tenorio Junior. On entend beaucoup des passages de ce court et très beau morceau dans le film des choses de Piano Player. Et pour moi, il est resté maintenant imprégné des images de ce film. Et j'attends avec impatience que le DVD sorte pour pouvoir le regarder, faire des arrêts sur images, retourner en arrière. Parce qu'en plus, il y avait un traitement de l'image qui était très particulier. Ben, on continue avec cet album, toujours celui où Tenorio est non seulement pianiste, mais maître d'œuvre d'un bout à l'autre.
Thank you.
on a passé un long moment avec le pianiste brésilien Tenório Júnior, toujours dans cet album de 1964, Le Seul à son nom, une composition de Bud Shank, Sambinha. Il existe aussi une belle version, bon, on la fera peut-être entendre une autre fois, que Bud Shank a enregistrée plus tard avec, entre autres, Claire Fischer au piano. Et on voit une rencontre avec Bud Shank dans le film, quand on enquête sur Tenório, et Bud Shank évoque ses souvenirs de rencontre avec ce pianiste merveilleux Ario. Et d'après ce que raconte Javier Trueba, c'est que c'est dans sa conversation avec Bud Shank que celui-ci découvre que Tenório est mort et qu'il avait été assassiné en 1976 par la police de la dictature argentine, dans des circonstances aussi affreuses qu'absurdes. Et j'ai été très frappé dans le film par la scène où Bud Shank ramène donc le narrateur à l'aéroport, et autant il était volubile, il conduisait comme un fou à l'aller, etc., tout le retour se fait dans le silence total, Bud Shank apprenant 30 ans plus tard comment avait disparu ce musicien qu'il avait rencontré, et ce musicien qui donc avait choisi un de ses thèmes pour son album. Et ben on va continuer, on est toujours avec cet album où il n'y a pas grand chose à jeter. J'ai eu du mal à trier, hein, mais j'ai écouté presque la moitié de cet album, mais je vous conseille, on peut maintenant le trouver sur YouTube, jetez-vous dessus. Là, la petite bande de ténors a joué Fin de semana en Eldorado, une composition du pianiste, un des précurseurs de la bossa nova, Johnny Alfi. Et ils ont dû bien s'amuser avec cet arrangement où ils changent à plusieurs reprises d'atmosphère, de tempo dans la musique qui part comme un morceau de hard bop endiablé, une rupture avec une espèce de petite berceuse. Et ça finit sur une tournerie très, très bossa nova. Peut-être une espèce de choix, on aurait pu choisir trois manières différentes de le jouer. Ben finalement, on met les trois dans la même pièce. Et on va continuer une dernière fois dans cet album avec un morceau intitulé « Carnaval sans assunto », hein, « Carnaval sans sujet ». C'était le dernier morceau qu'on entendra aujourd'hui de cet album de Tenorio sous son nom, Carnaval sans assunto, une composition du bassiste, du contrebassiste Zezinho Alves, et ce qui donne le côté de ces groupes où tantôt l'un, tantôt l'autre était leader, que même ici, à l'intérieur de cet album dont Tenorio est le leader, il y a cette composition de Zezinho Alves, mais c'est le bassiste aussi qui a fait l'arrangement qu'on vient d'entendre. Et le dernier album que je connaisse, je dis bien que je connaisse, je ne sais pas tout, où Tenorio tient sa place, et il est de 2 ans plus tard, 1966, c'est le premier album d'un très jeune saxophoniste brillantissime, Vitor Assis Brasil, qui donc réunit un groupe où de nouveau on retrouve les gens de cette bande, sauf que déjà eux, ils font presque figure de vieux, puisqu'ils ont maintenant 24, 25, 26 ans, et que lui, c'est à 21 ans qu'il enregistre le premier album, qu'il dirige, donc c'est lui le leader du groupe, il y a plusieurs de ses compositions dedans, mais on sent déjà un peu que l'époque a changé, on est en 1966, Vitor Assis Brasil dans cet album se donne énormément de place dans tous les morceaux, et c'est plus un album de groupe, c'est vraiment... Un musicien et ses accompagnateurs. Donc, il faut bien tendre l'oreille pour entendre Évidemment, la couleur harmonique et rythmique des morceaux est donnée par le piano de Tenorio. Il y a de temps en temps une petite place pour des solos de Tenorio, donc écoutez bien. Le premier, c'est Amor Ginada, une composition de Marcos Valle et Paulo Sérgio Valle. Donc c'était Amor Ginada du premier album du saxophoniste brésilien Vitor Assis Brasil. Tenorio est au piano, de nouveau dans un rôle d'accompagnateur, donc beaucoup plus discret que ce qu'on a entendu avant. C'est un rôle qu'il va avoir dans les années suivantes, parce que pour autant qu'on sache, on retrouve son nom crédité dans des albums... alors la même année de deux chanteuses, Vandassa et... Doris Montero, et plus tard, chez les chanteurs, Gal Costa, Edu Lobo, Johnny Alfie, et Milton Nascimento, Nana Kaimi, mais on ne le verra, on n'a pas de traces, du moins que j'ai pu trouver en plus de 2 semaines de travail de toutes les manières, de projets où il est vraiment été comme musicien, leader ou avec beaucoup de place pour être entendu. On sait que ces derniers jours, il les a passés en accompagnant Vinicius de Moraes et Toquinho dans une tournée en Argentine, en Uruguay, etc. Et qu'il a été enlevé une nuit, peut-être confondu avec quelqu'un d'autre, on n'en sait rien, mais par la police de la dictature argentine en 1976 et qu'on ne l'a jamais retrouvé vivant. Ça, maintenant, c'est certain. Mais il est difficile d'avoir des traces maintenant, à part les témoignages de ceux qui l'ont connu et qui en ont parlé dans le film, sur ce qu'a été sa vie musicale dans les années suivantes. Alors je signale, avant qu'on entende un dernier morceau, que on peut trouver aussi quelque chose d'assez étonnant sur YouTube maintenant. C'est sur la chaîne de Tropicalia Discos. Quelqu'un a donné donc à cette chaîne YouTube un enregistrement de 18 minutes de Tenorio Junior piano solo. Je crois que c'est le seul qui existe à ce jour, ou du moins qui soit ressorti de l'oubli. Alors, on n'a aucune indication sur quand ça a été enregistré, où, est-ce que c'était à la maison puisque on sait qu'il jouait beaucoup et interminablement chez lui. Donc on peut l'entendre et on n'en sait pas plus. On verra si un jour ça peut être suffisamment retravaillé pour qu'on en ressorte un album. En tout cas, sachant qu'il y a quelque chose de mystérieux dans cette apparition, donc cet énorme travail en l'espace de 2 ans, 63 et 64, où il enregistre comme pianiste dans des morceaux instrumentaux dans de nombreux groupes, et puis ensuite il semble s'effacer, se faire plus discret, et après il tombe dans l'oubli jusqu'à ce que dans les années 2000 on le ressorte, et j'espère que cette émission contribuera à faire qu'il ne soit plus jamais oublié. On va l'entendre une dernière fois donc comme accompagnateur de Vitor Assis Brasil dans une composition de celui-ci intitulée Eugénie. Le trio basse-batterie-piano crée l'atmosphère avant de laisser la place au saxo et il a le droit à un tout petit solo à la fin. dernier accord mélancolique pour rêver à ce qu'aurait pu être la vie de Tenorio Junior si elle n'avait pas été si brutalement interrompue en 1976 par les sbires de la dictature fasciste argentine. On se donne rendez-vous dans un mois, normalement, si Dieu veut, et sur le 88.4, radiogalère.org, vous nous trouvez aussi sur les radios numériques, et je dis au revoir à mon ami collaborateur Maître Sidi, qui a efficacement œuvré, malgré quelquefois mes confusions dans les fichiers et mes notes. À bientôt.